Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, l'actualité musicale reprend enfin à Toulouse et dans notre région, que ce soit au Théâtre du Capitole, à la Halle aux Grains, avec l'Orchestre National du Capitole qui est en concert ce samedi 5 juin, mais aussi à Albi, où a lieu également ce samedi 5 juin à 18h, le concert de clôture de l'édition 2021 du beau festival Ton Voisin. La première partie de ce concert au Théâtre des Lys va être donnée par la grande pianiste lituanienne Mūza Rubackytė, qui me fait l'honneur et l'amitié d'être l'invitée de ce numéro. Elle a publié récemment « Née sous un piano », son autobiographie, parue aux éditions Ovadia, un livre passionnant sur une vie qu'il n'est pas moins, de son enfance et son adolescence en Lituanie, alors pays satellite de l'URSS, à sa carrière actuelle de concertiste internationale, en passant par sa formation musicale, s'est démêlée avec le pouvoir soviétique, ses engagements politiques, son arrivée en France, ses nombreux voyages à travers le monde et les multiples rencontres qui ont jalonné et enrichi son existence, un ouvrage rempli d'histoires et d'anecdotes incroyables, de personnages hauts en couleur, qui se lit comme un roman russe et qui va servir de trame à cette émission. Nous écouterons aussi bien sûr cette grande musicienne dans ses œuvres au piano. Tout de suite, retour sur la vie de Mūza Rubackytė.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue à vous aussi, Mūza Rubackytė. Merci d'être présente de nouveau à mes côtés dans ce studio parce que ce n'est pas la première fois que vous venez à Toulouse et à Radio Présence. Alors je commence vraiment au tout début, l'histoire de votre vie débute à Kaunas, où vous êtes née à la toute fin des années 50. Très vite, vos parents vont s'installer à Vilnius, la capitale lituanienne. Votre mère était pianiste, votre père était baryton, chanteur célèbre, je crois, dans la Lituanie de l'époque. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et concernant ce titre, « Né sous un piano », on peut presque le prendre au pied de la lettre parce que votre mère, alors que vous étiez un tout jeune bébé, déposait votre couffin sous le piano lorsqu'elle en jouait.
Oui, merci. D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation de venir vous parler. C'est toujours très émouvant. Chaque contrat, chaque invitation, après tout ce qu'on a vécu, est très émouvant et je suis très émue d'être là. Oui, je suis née sous un piano peut-être, mais plus exactement dans la famille des grands musiciens, des professionnels de la musique. Et ça va même plus loin. Mon grand-père, qui était mathématicien, dirigeait l'orchestre amateur et lui-même jouait parfaitement le piano. Alors, pour répondre à votre question, oui, j'ai vécu à la maison avec mes deux grands professionnels, ma maman et ma tante, grands professionnels du piano, renommés, réputés, et la grand-mère qui pondérait les élans exigeants de mes deux magnifiques professeurs. Papa s'est séparé avec ma maman très tôt, j'ai un très, très jeune âge de moi, qui regrettait toute sa vie d'être séparé de moi, ça je suis par la suite. Et moi-même, j'étais séparée de mon père jusqu'à ma maturité, jusqu'à 18 ans.
Oui, alors vos parents, deux musiciens, votre mère, forte personnalité, qui coachait un peu votre père, qui lui mettait presque des notes après ses prestations à l'opéra, parce qu'il chantait à l'opéra de Vilnius.
Oui, c'était le baryton de l'opéra, mais il avait la biographie incroyable. Mon père était juriste de métier et toujours chantait dans les chorales amateurs. Et on lui a dit, mais attends, mais tu as la voix fantastique, tu veux pas devenir chanteur? Et il est entré au conservatoire à 35 ans, il a rencontré ma mère, qui l'a initié à la musique en quelque sorte. Il avait la voix, d'accord, mais il savait pas la béaba de la musique. Donc c'est ma maman qui était son coach et son plus grand critique, d'où leur relation n'est pas épanouie vraiment. Et elle était toujours très critique et elle a fait ça avec moi. Mais moi, je me suis échappée mieux que mon père de cette pression.
Donc votre père, vous ne le reverrez qu'à l'âge de 18 ans.
Totalement.
Ouais. Mais vous saurez qu'il vous a quand même suivi, qu'il a suivi vos débuts, qu'il a toujours été finalement proche,
oui,
mais sans être
oui,
à côté de vous.
Alibi de mon entourage des femmes était qu'il était trop nerveux, il m'a perturbé comme chanteur d'opéra et il fallait s'occuper de l'enfant qui avait un don. Et donc j'étais écartée.
Ouais, votre mère va repérer très tôt vos dons et votre oreille absolue. Vous racontez une anecdote, elle commence à chanter une berceuse, je crois,
oui,
et vous la terminez.
Oui, tout à fait. Et puis, il avait histoire de touche noire, touche blanche. Pourquoi tu nettoies que les blanches ou pas les noires? Donc, je pouvais tout faire et c'était très tôt.
Alors, à la suite du divorce de vos parents, vous allez vivre donc avec votre mère qui ne va pas se remarier. Vous allez rester enfant unique et être élevé par ces trois femmes, votre mère bien sûr, mais aussi sa sœur, la tante Irina. Et votre
Irène.
Irena, pardon, on ne prononce pas la russe, c'est
Non.
Irena, et votre grand-mère maternelle, trois femmes issues d'une famille d'intellectuels, d'artistes, d'universitaires et de grands propriétaires. Alors, je parlais tout à l'heure de romans russes, on a l'impression un
Ouais,
peu d'être
oui.
chez le comte Tolstoï, là. Trois femmes avec lesquelles on ne parle guère que de musique, de littérature et d'art en général. On peut dire que vous recevez une sorte d'éducation aristocratique, j'ose le terme, mais uniquement par des femmes, avec des personnalités très fortes, mais différentes, et toutes vont vous apporter quelque chose dans votre construction en tant qu'être humain, mais aussi dans votre formation artistique et musicale. Et il y avait beaucoup de discussions à la maison, notamment lorsqu'il s'agissait d'interpréter un morceau au piano.
Oui. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai déjà su qu'il a les opinions différentes qui peuvent être très fondées. Mais il n'y avait pas la dogme qui régnait en dehors de notre maison parce que la dogme dans le temps soviétique était unique et irremplaçable. Moi, j'avais l'opinion, l'exemple d'opinion de ma maman, de ma tante et de ma grand-mère qui disait de toute manière, toi, tu décides toi-même, laisse tomber ces deux folles, elle me disait. Et après, quand j'ai écouté personne, il avait quelque chose, le produit luxueux qui était acheté pour la maison, c'était un magnétophone pour que je puisse écouter moi-même et juger moi-même. Et ça, c'était quelque chose de formidable, absolument inédit, coûteux, juste pour l'enfant.
Alors la grand-mère, c'est un peu la force tranquille, c'est le pilier de la famille. La force tranquille, c'est un des titres d'un chapitre de votre
Tout à
livre.
fait.
C'est la copine de jeu. Alors apparemment, c'était quelqu'un de très drôle, mais en même temps très pieux.
Oui, c'est ma grand-maman qui m'a menée à l'église, et justement à l'église orthodoxe, contrairement à notre foi catholique, puisque c'était un peu à l'écart du regard de pouvoir, et je pouvais absolument pas suivre l'éducation religieuse officiellement d'abord. Doublement, je ne pouvais pas aller aux offices parce que mes deux professeurs, ma maman et ma tante, enseignaient. Ça veut dire qu'ils devaient construire l'homme nouveau. Donc, c'était impensable que l'enfant va à l'église. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a emmenée avec le foulard sur la tête et les lunettes noires. Mais j'ai reçu cette belle éducation spirituelle et je suis reconnaissante. J'ai toujours la magnifique icône qui a traversé toutes les péripéties des guerres et des révolutions. Je suis toujours chez moi, avec moi.
Icône que vous a transmise votre grand-mère.
Tout à fait.
Alors la mère, elle, c'est une pure musicienne, elle est très exigeante, elle va sacrifier sa vie à votre éducation, hein, vous l'écrivez dans votre livre. Alors il y a une anecdote que je trouve amusante et charmante, c'est qu'elle avait créé une chorale de filles à Kaunas avant votre naissance. Elle était très aimée de ses choristes et ses choristes l'avaient surnommée Musa. Et
Oui,
Musa, c'est la muse.
muse, tout à fait. Les filles qui gagnaient tous les concours régionaux, comme le choral, la surnommaient Muse, Musa.
Et c'est ce prénom que votre mère a choisi
Tout à fait.
pour vous. Il vous va très bien d'ailleurs. Alors enfin, la tante Irina, alors elle, c'est un peu la fée de la maison. Malheureusement, elle était handicapée, donc elle
Oui,
restait.
oui.
Alors pour vous, c'était presque une bénédiction parce que vous l'aviez tout le temps avec vous. Elle joue avec vous, elle inventait des jeux pour vous.
Oui.
Et puis alors, c'était aussi une très grande musicienne.
Oui.
Quelqu'un d'extrêmement érudit, très littéraire. Il y avait beaucoup de livres à la
Oui,
maison, hein. Vous avez
mais.
grandi, immergé dans la musique, mais aussi au
Oui.
milieu de livres.
Elle vivait dans son monde des livres, de la grande littérature, plupart du temps russe, lituanien aussi, et aussi occidental. Et c'est elle qui me transmettait tout ça, la littérature française. D'ailleurs, elle m'a appris les béaba de la langue française, ma tante. Elle était handicapée des jambes, elle marchait pas assez. Donc, elle restait à la maison, mais elle enseignait à la maison. Donc, dans notre maison, il avait une sorte de conservatoire. Et dans l'autre pièce où j'étais, j'ai entendu la sonate de Clémentine, le prélude de Chopin. Et je disais, ah, c'est Benoît qui est venu, ah, c'est Marie qui est venue. Par le répertoire.
Elle jouait de la musique baroque, les classiques viennois, Haydn, Mozart, Beethoven, c'est elle qui vous transmet cette passion pour ces musiciens. Et puis, j'ai vu qu'elle commentait aussi à la radio, c'était une grande connaisseuse de la musique lituanienne, et entre autres, un compositeur qui va être très important pour vous par la suite, Čiurlionis, votre compatriote.
Oui, ma tante était grande pianiste lituanienne qui diffusait la musique lituanienne, ancienne et actuelle. Donc, on lui a téléphoné de la radio très souvent en disant, est-ce que vous pouvez nous jouer en direct ça, ça, ça? Et en 3-4 jours, elle apprenait et elle jouait la musique lituanienne. J'étais fière de ses affiches, des concerts. Et Čiurlionis était comme mon grand-père, dans le sorte que j'ai entendu parler de lui, j'ai écouté sa musique jouée par ma tante. Ça faisait partie de mon enfance.
Alors lui, il avait la particularité d'être compositeur et peintre, mais un grand peintre, pas seulement un peintre du dimanche, un vrai grand peintre. Oui. À côté de Toulouse, à Montauban, on a Ingres, qui lui était un peintre musicien. Lui, c'est un compositeur et peintre. Oui. Et c'est vraiment un personnage très important dans l'art lituanien.
Oui, il a vécu très courte de vie, 36 ans, mais il était au début de l'abstractionnisme. Et Musée d'Orsay a fait une énorme rétrospective de symbolisme balte et aussi aux sources de l'abstractionnisme. Et Turlionis était présent à deux reprises.
Alors, après avoir évoqué Turlionis, que vous avez joué très tôt et dont vous avez enregistré les œuvres complètes pour piano, nous allons vous écouter une première fois dans cette émission. Vous interprétez ici le prélude VL 239 du grand compositeur lituanien. Le prélude de VL 239 de Turlionis, interprété par Musa Rubaskite, un extrait du CD que vous avez consacré aux œuvres complètes pour piano de votre compatriote. Alors, puisqu'on parle de la Lituanie, vous rappelez longuement dans votre livre le contexte et l'ambiance dans lesquels vous avez grandi et ce qu'a subi votre famille maternelle avant même votre naissance. Rappelons qu'en 1940, la Lituanie est déjà un satellite de l'URSS de Staline à l'époque. Des membres de votre famille ont été déportés. Il y en a beaucoup que votre famille n'a jamais revu. Seule votre mère, finalement votre tante et votre grand-père vont éviter la déportation. Et ensuite, ce sont les nazis qui vont occuper la Lituanie à partir de 1941. Et ils vont exterminer les juifs et les slaves, sachant que les baltes, eux, étaient considérés comme ariens et donc échappaient à leur vindicte.
Oui, on est passé entre les gouttes dans le système nazi, dans ce sens-là. Mais sinon, je commence le livre, nous étions déportés. Et les gens me disent, mais attends, mais tu n'étais pas né. Sauf que ça a influencé toute ma vie. On était déshérités. Ma maman avait la peur au ventre de parler de son passé.
Et elle vous a transmis aussi cette
tout
peur,
à fait.
En tout cas, cette méfiance.
Mon grand-père était ennemi du peuple. Il avait une formule, un sort de tampon dans la carte d'identité. Ma maman était fille d'ennemi du peuple et ma maman a eu le peur au ventre pour que je ne sois pas la petite fille d'ennemi du peuple.
Votre famille était surveillée.
Tout à fait. Donc, on fêtait les fêtes religieuses avec les rideaux fermés. On essayait de nettoyer les mains des couleurs des œufs colorés, etc.
Alors, vous le rappelez aussi dans votre livre, il y avait beaucoup de juifs en Lituanie avant les années 40, avant l'occupation nazie. Ils étaient 160 000. Et comment appelait-on Vilnius à l'époque?
Vilnius, Lituanie et Vilnius, surtout Vilnius, c'était appelé Jérusalem du Nord. mort. Et dans cette ville, il avait forte communauté juive, et je me rappelle très bien de ce temps-là. Et il avait les gens célèbres qui sont issus des Litvaks, on appelait cette population Litvaks. On peut citer Roman Gary, aussi origine Soutine, vous avez dit
Chaim Soutine, le grand peintre,
Emmanuel Levinas, Yasha Heifetz.
Heifetz, le grand violoniste.
Dans le monde de piano, Vlado Perlmutter, grand professeur, grand pianiste français. Et il y a tant d'autres. Cette communauté vivait en harmonie dans cette ville où il avait toutes les confessions, même les Tartares de Crimée étaient chez nous, les Caraïbes. Donc c'était une ville cosmopolite et paisible. Malheureusement, le cours d'histoire a décidé
avec
autrement.
Avec beaucoup d'intellectuels et d'artistes, hein, vraiment beaucoup. Voilà, je rappelle juste un chiffre, il y avait 160 000 juifs à Vilnius, il n'y en a plus que 5 000 aujourd'hui. Ça donne un peu une idée de ce qui a pu se passer à cette époque, malheureusement. Donc en mai 1945, les troupes soviétiques libèrent la Lituanie, mais comme vous l'écrivez dans votre livre, on est libéré pour être occupé aussitôt.
Le pays, même jour.
Voilà, le pays change juste, si je puis dire, de botte. Il passe de la botte nazie à la botte soviétique. Alors là, c'est la terreur, la propagande, la méfiance.
Et deuxième déportation.
Voilà, deuxième déportation. Ouais. Et puis, je crois, et ça c'est resté, même chez vous, une méfiance envers les Russes qui demeure encore aujourd'hui en Lituanie.
C'est quand même paradoxal, parce que moi j'étais nourrie par la grande culture polonaise et surtout russe, littérature, théâtre, etc. Et c'est devenu notre ennemi, et c'est le soviétisme qui a tout fait. Il avait quand même ce fou qui s'appelait Lénine qui nous a fait tout ça, et puis tous les autres qui ont...
Alors, on va reparler évidemment de la propagande soviétique, puisqu'on va parler de votre éducation musicale qui va vous mener ensuite à Moscou. Mais vous grandissez d'abord dans cette Lituanie, donc placée sous la botte soviétique, auprès de ces trois femmes. Alors, très vite, votre existence va tourner autour de la musique, du piano, du chant, parce que vous chantiez aussi au départ. Hein, vous aviez un père chanteur et vous aviez manifestement une jolie voix. Alors, c'est un apprentissage à la maison, c'est quand même assez dur et intensif, mais vous aimez vraiment ça.
Oui, en fait, on ne savait pas où me mettre, si je puisse m'exprimer ainsi, ou me directionner dans la musique. Donc, j'ai chanté en pensant que mon père m'a transmis génétique de la belle voix. Et j'avais une belle voix très forte de l'enfant. Évidemment, avec l'oreille absolue, ça marchait très bien. Ensuite, je jouais le violon, mais qui me paraissait très ennuyeux et très difficile de rester tout le temps. Et donc, le piano a pris là-dessus. Probablement, le métier de maman a pris là-dessus de métier de papa. Mais je faisais plusieurs choses en même temps. Et puis la composition, voilà. Mais dans la vie, il faut choisir une chose au résultat.
Et ça a été le piano à un moment donné. Alors tout de même, il y a un tourne-disque à la maison, qui est peut-être un luxe à l'époque.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, on entend de l'opéra italien, de l'opéra russe.
Oui.
On chante et puis on entend les grands pianistes.
Oui.
Alors quels sont les grands pianistes qu'on entend chez vous ?
Gizekind, Lipati.
Lipati, le roumain.
Oui, tout à fait.
Et puis les grands russes de l'époque.
Bien sûr, Richter, Gilels. Puis aussi le violon, Kogan, Oistrakh. Donc tout était là et tout était acheté tout le temps. Et grands chanteurs, ce qui m'a énormément marqué. Peut-être en arrière-plan, en arrière-tête, j'avais mon papa que j'entendais de temps en temps à la radio avec magnifique voix de baryton. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais être le diva d'opéra. Malheureusement, est-ce qu'on m'a pas donné les bons professeurs ? Est-ce que ma voix était moins intéressante à la puberté ? Mais finalement, je n'ai pas continué. Mais... ce côté vocal, ce côté respiration, ce côté narratif et chantant est important pour moi en tant que pianiste aussi.
Alors, il y a quelqu'un qui va influencer votre jeu, quand même, vous l'avez cité, Sviatoslav Richter. Pour vous, c'est la référence, c'est le modèle absolu ?
Oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres sur le marché soviétique. Et les étrangers ne venaient pas... jouer chez nous, ou les étrangers bulgares ou tchèques, il n'y avait pas beaucoup d'autres. Donc Richter était vraiment une personnalité et une découverte pour nous tous et un modèle pour nous tous. Et j'ai raconté un petit anecdote, combien je voulais aller à son concert et qu'est-ce qu'il fallait faire pour.
Clandestinement presque.
Tout à fait. Donc c'était un dieu.
Alors, ce qui vous a appris, c'est que finalement, la musicalité, c'était plus important que de faire toujours les bonnes notes.
C'est ça. Et je continue jusqu'à maintenant. Si je joue tout simplement propre, mais finalement, je ne peux pas le faire parce que je suis formatée autrement. Pour moi, c'est le plus important, c'est le message et l'expression et le sentiment. S'il n'y a pas ça, Pour moi, ce n'est pas intéressant. D'abord, je m'ennuie moi-même. Et si j'ennuie moi-même, le public va faire pareil.
Et on en revient au chant. Il faut faire chanter le piano.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, vous avez été un enfant prodige. Vous allez jouer dès l'âge de 7 ans un concerto de Haydn. On vient vous filmer à la maison. Vous jouez à la radio, vous jouez à la télévision. Vous êtes invité à donner un concert au Kremlin. Alors ça, c'est peut-être à des fins de propagande. Les enfants prodiges, fallait les montrer dans l'Union soviétique de l'époque. Enfin, avec tout ça...
Les bêtes de scène, oui.
Ah, vous découvrez quand même un peu le monde. Et vous allez entrer très tôt à l'école des arts Tchurionis, on revient lui, à Vilnius, avec, alors je ne sais pas si on appelait ça comme ça à l'époque, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, les enfants surdoués, c'était, vous étiez considéré comme une enfant surdouée. Avec d'autres.
Oui, oui, on choisissait ces enfants doués pour la musique, pour la peinture et pour la danse. Quand on dit musique, il y a plusieurs instruments, donc on écoutait d'abord l'oreille d'enfant, on faisait répéter des choses, mais aussi on regardait les mains. Est-ce que la main est mieux pour le violon? Est-ce que la main est mieux pour le piano? Donc c'était vraiment sélection très sévère à l'âge de 6-7 ans. Et ensuite, on entrait dans le cursus de gymnase de l'école pendant 11 ans.
Et puis, vous allez demander, presque imposer à votre mère de tenter l'entrée au très prestigieux conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Vous y passez donc une audition avec un des grands maîtres de l'époque, Yakov Flier, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette audition avec ce grand monsieur?
C'était une légende. Par ailleurs, j'étais son dernier élève. Donc, j'étais à la fin de sa vie.
Il était très âgé.
Oui, il était très âgé. Mais à Moscou, même jusqu'à maintenant, les professeurs n'ont pas de retraite, dans le sens, ils ne sont pas mis dehors. Ils meurent fidèles au poste. Et donc, il était là et il restait. Recevait à la maison les élèves, ils ne recevaient plus au conservatoire. Et j'ai fait passer cette audition de ma vie et il m'a fait les compliments. Il a dit, si tu réussis les examens, je te prends dans ma classe. Puisque j'ai une place libre, qu'est-ce que c'était cette place? Et en France, il y a un pianiste qui est connu, Mikhail Rudy. Et c'est cette place qui s'est libérée quand je suis arrivée, parce que Rudy est passé à Ouest. Et voilà l'histoire.
Oui, alors vous avez joué à cette audition un prélude et une fugue de Bach, et puis l'étude transcendante de Liszt, qui n'est pas facile. Hein.
Oui.
Flier va vous donner des conseils qui vous servent encore aujourd'hui, je crois.
Hein. Oui, oui, et c'est comme ça, en fait, on teste les musiciens et les pianistes, non seulement jouer ce que vous avez appris, mais on voit qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur place avec les conseils de maître. Et s'ils réagissent, s'ils changent instantanément, c'est intéressant. Donc, il avait les conseils de polyphonie, de son. Sonorité, je ne vais jamais oublier cette sonorité, ça me hante encore aujourd'hui.
Alors, comme vous aviez joué du Liszt à cette audition et que ce compositeur a été et reste très important pour vous, nous allons vous écouter maintenant dans une interprétation des années de pèlerinage dont vous avez enregistré l'intégrale sous le label Lyrinx, un CD qui fait référence encore aujourd'hui au bord d'une source, pièce extraite de La Suisse, la première année de pèlerinage. Au bord d'une source, pièce extraite de La Suisse, la première année de pèlerinage de Franz Liszt, interprétée par Musa Rubaskite, un extrait du CD que vous avez consacré à ce grand classique de la musique pour piano seul. Nous allons d'ailleurs parler de la Suisse un peu plus tard dans cette émission, parce que c'est un pays qui compte beaucoup pour vous depuis quelques années, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais je voulais revenir au titre de cette pièce et à son compositeur, parce que la musique en général, et la musique de Liszt en particulier, c'est une source au bord de laquelle vous venez vous rafraîchir, vous ressourcer tous les jours. jour. Liste, c'est le compositeur qui vous touche le plus.
Ça s'est passé vraiment par hasard. Toute petite fille, j'avais beaucoup de tempérament et quand je jouais au piano, je cherchais les œuvres qui me font un peu me défouler mon tempérament. Et j'ai vu un film avec une petite pianiste australienne qui jouait avec ses kangourous et en même temps, sur le piano droit, elle jouait la Rhapsodie de Liszt numéro 6. Et j'ai dit à ma mère et ma tante que je vais apprendre cette œuvre à mes 10 ans. Elle a dit non, mais c'est beaucoup trop tôt. J'ai dit, mais j'ai vu dans le film. Et ils ont dit, tu fais toi-même. Alors, j'ai tiré la grosse partition en grimpant sur échelle de bibliothèque familiale et j'ai préparé moi-même. Et avec cette rhapsodie, j'ai gagné plusieurs concours par la suite. Et Liszt reste pour moi comme partie de moi-même, puisque quand on touche très tôt, on parle cette langue, on a besoin de cette langue. C'est un compositeur qui reste immuable dans mon répertoire. Or, dans mon vraiment grand répertoire, j'ai du tout, à partir de musique baroque jusqu'à musique de nos jours, avec le concerto de Penderecki. Mais Liszt reste une fil rouge parce que ça me parle toujours. C'est très, très, très varié comme musique.
C'est très virtuose.
Très, très virtuose, qui demande un défi. Et c'est intelligent, c'est toujours moderne, c'est jamais trop joué, c'est toujours à découvrir.
Mais j'ai l'impression que l'homme aussi vous fascine. Il y a un côté
sans
mystique,
doute.
Il y a un côté spirituel qui vous
sans
touche
doute.
Forcément.
Sans doute, oui, il nous a quittés il y a déjà de son combien d'années, de son 40 ans, mais il fascine comme s'il est en vie, hein. Il est là.
Vous écrivez vers la fin de votre livre que vous ne comprenez pas qu'on ne puisse pas aimer la musique classique, que c'est inconcevable pour vous.
Totalement.
Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous dit « Moi, la musique classique, ça ne me touche pas. » Vous ne lui parlez plus ?
C'est une double ignorance. Ça veut dire qu'il ignore qu'il ignore. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Il faut ouvrir la porte, il faut pousser la porte de la salle de concert. Et ça m'est arrivé dans mes concerts lointaines. Prenons par exemple un concert à la Martinique, au Fort-de-France, où il y avait les gens qui n'ont jamais venu au concert à leur âge de 70 ans, qui étaient là en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait avant ? Pourquoi ?» Pourquoi j'ai pas connu ça?
Oui, alors je vous disais ça parce qu'il y a Suran, le grand philosophe romain qui a vécu longtemps en France, lui, il mettait Bach au-dessus de tout. Et lorsqu'il était à côté de quelqu'un à table, par exemple, tu disais « Ah, moi, Bach, je n'aime pas », il ne lui parlait plus. Il disait « Moi, c'est fini, je ne pars plus. Quelqu'un qui n'aime pas Bach, je ne pars plus avec lui. » Voilà, bon, vous n'êtes pas
non,
tout à fait là.
Non, je suis beaucoup plus tolérante.
J'ai l'impression. Alors, je reviens au livre. Donc, vous quittez votre famille, vous vous installez à Moscou pour suivre les cours du conservatoire Tchaïkovski. Les premiers temps vont être difficiles. Vous allez vivre en colocation avec deux autres élèves. Ça ne se passe pas très bien, les relations sont compliquées. Bon, il faut faire la queue aussi pour se nourrir, hein, dans l'URSS de Brejnev à l'époque. Et vous rencontrez Edouard, un camarade du conservatoire, pianiste et organiste, avec qui vous allez vous marier. Et puis, va venir la période des grand concours, vous allez participer au très prestigieux concours All Unions de Leningrad. Leningrad, donc Saint-Pétersbourg aujourd'hui, celui dont tout rêvent les jeunes musiciens soviétiques en ce temps-là. Comment s'est passée cette épreuve qui va être cruciale pour la suite de votre carrière ?
Pour moi, c'était incroyable parce que je suis venue de fond de l'Union soviétique, de Lituanie.
Qui est une petite provinciale.
Totalement. Et il avait la présélection pour ce concours et j'ai passé présélection. Et le concours s'est déroulé en plusieurs épreuves dans le plus important salle de Saint-Pétersbourg. Et tout le monde venait vers moi en disant « Mais t'es qui toi ? D'où tu viens comme ça ? Paraît-il que tu joues très bien. » Et donc, ça m'a encouragée. Mais mon professeur, qui m'a encouragée aussi, qui devait être membre du jury, il est parti de la salle du concours avec un brancard parce qu'il a eu un début d'infarctus, le soupçon d'infarctus. Donc, j'avais personne pour me défendre. Mais néanmoins, j'ai eu quand même troisième prix. Il n'avait que trois prix décernés pour toute l'Union soviétique. Et le premier était Mikhail Pletnev, qu'on connaît bien aujourd'hui.
Immense pianiste et chef aussi. Hein,
c'est ça.
Formidable.
Donc pour moi, c'était une reconnaissance incroyable.
Même. Vous allez préparer ensuite un autre concours, tout aussi prestigieux pour les pianistes, le concours Liszt. On revient à Franz Liszt, à Budapest. Mais comme vous allez y être en contact avec ce qu'on appelait en URSS les corrompus de l'Ouest, on vous demande de prouver votre ferveur communiste et d'ingurgiter tout un tas de livres de propagande, des ouvrages de Lénine. Et vous allez vous rendre à Budapest, flanqué d'un agent du KGB qui vous suit, mais partout, vraiment partout, et qui en plus vous harcèle. en vous menaçant de faire un rapport très défavorable si vous ne cédez pas à ses avances. Et vous racontez ça, bon, je pense que c'était monnaie courante dans l'URSS de l'époque, c'est-à-dire dès qu'on allait à l'extérieur, on était suivi, surveillé en permanence, et quand on était une femme, ça pouvait donner lieu à ce genre de comportement.
Vous savez, je n'ai jamais raconté ça, ni dans mes interviews, nulle part. C'est la première fois que je parle dans le livre, parce que il fallait casser la glace. Et c'est à cause de ça que j'étais interdite de passeport par la suite pendant 7 ans.
Mais parce qu'il a fait évidemment un rapport très défavorable après.
Totalement.
Bien sûr, vous n'avez pas cédé ses enfants. C'est épouvantable ce que vous racontez.
Oui, c'est assez épouvantable, mais je ne pouvais pas. Je suis restée intègre. Et finalement, donc, tous les concerts, que j'ai signé plein de contrats, tous les tours aux États-Unis, en France, pas ailleurs aussi, tous sont tombés dans l'eau à cause de cette...
Ça a brisé votre début de carrière.
Je suis devenue la personne non sortable, dans le sens de, on me laissait pas partir, j'étais non fiable.
Alors malgré ce contexte évidemment très difficile et qui est pas idéal pour préparer un concours, vous allez le gagner ce concours liste.
Oui.
Entre autres, grâce à la très bonne note que vous attribue un membre du jury, un certain Zoltán Kocsis.
Tout à fait. Depuis, il est devenu mon grand supporter, grand ami. Malheureusement, il n'est plus là dans ce monde. Mais c'était un personnage fascinant qui m'a absolument marqué, énormément marqué.
Zoltán Kocsis, donc, il fut un très grand pianiste hongrois et un grand chef d'orchestre décédé il y a quelques années.
Oui.
Donc, vous revenez en URSS, l'agent du KGB se venge en faisant un rapport terrible contre vous et vous êtes donc privé de passeport. Vous ne pourrez plus faire de concert à l'Ouest, donc votre carrière va prendre malheureusement du retard. Et la sanction, ça va être, entre autres, de faire ce que vous appelez ce qu'on appelait des concerts punitions, c'est le terme que vous employez dans le livre. Alors, en quoi ça consistait ces concerts punitions? On vous envoyait au fin fond des républiques soviétiques pour jouer n'importe où, dans n'importe quelle condition.
À la fois, j'étais très heureuse puisque j'appartenais à ce Soyuz Concert, ça veut dire l'Union des concerts à Moscou, où je recevais le feuille de route pour aller jouer dans le grand pays. Et parmi 5 concerts de grande envergure dans les capitales, il avait 5, comment on appelle, punitions. Et on recevait ces concerts la veille en disant tu pars là-bas, c'est une sorte de mission pour porter la culture au peuple. Et là, il a plein d'anecdotes.
Ah oui, incroyable.
Que parfois, j'ai dit, mais c'est vraiment que ça s'est passé avec moi. C'est difficile à imaginer aujourd'hui.
C'était un peu le goulag du pianiste, toute proportion gardée,
sorte,
bien sûr. Mais c'était un peu
sorte.
Ça, quand même. Donc, c'est une tournée forcée.
Mais vous savez, il avait plein de mes copains qui étaient dans les mêmes situations, qui terminaient mal, parce que rester 10 jours en Sibérie dans les conditions comme
ça... moralement et physiquement.
Moralement. Donc, dépression, alcool, etc. Moi, j'étais avec ma nature optimiste, qui reste toujours optimiste. J'étais là pour rencontrer, pour profiter de la situation, pour roder mes programmes, pour rencontrer les bonnes personnes.
C'est ce que vous dites, le bon côté de la chose, c'est que ça vous a permis d'acquérir un très grand répertoire.
Tout à fait. Et je travaillais, je venais, au lieu de regarder la télé qui n'existait pas, j'ai travaillé à la Philharmonie jusqu'à minuit.
Alors, vous avez joué en Sibérie, vous avez joué à Bakou, vous avez joué au
Kazakhstan,
et vous avez joué dans des usines, usine à saucisses, vous racontez
oui,
ça.
Oui.
On vous donne le choix entre une usine à poulet ou une usine à saucisses, le lendemain, tu joues l'une ou l'autre. Et vous avez joué dans une usine à saucisses.
Oui, et c'est le coin rouge qui n'est pas plus grand que ce studio-là, où il avait le piano droit et puis les ouvriers qui mangeaient leur sandwich parce que c'était imposé aller la pause culture, donc pause déjeuner, pause culture, ensemble.
Ils s'arrêtaient et ils vous écoutaient religieusement.
Ça, c'était magnifique. C'était magnifique. Vous savez, il y a même certains grands musiciens comme Joshua Bell qui a essayé de jouer dans le métro juste pour savoir est-ce qu'il a un impact aux gens qui passent. Pour moi, c'était un petit peu ça. J'ai aussi essayé de trouver la conviction à travers la musique.
Nous allons vous écouter de nouveau dans l'exécution d'une œuvre d'un compositeur très cher à votre cœur lui aussi, Robert Schumann, dont vous jouez ici une pièce du Carnaval Opus 9, celle qu'il a intitulée Chopin, en hommage à son grand contemporain polonais. Chopin, pièce du Carnaval Opus 9 de Robert Schumann, interprétée par Musa Rubaskité. La période que vous avez vécue, ou vous avez vécu sous la dictature soviétique, aura donc été très dure. Vous allez de plus en plus vous engager contre le régime, malgré tout, ce qui va encore plus nuire à votre carrière, bien sûr. Comment se manifestait votre engagement politique? Vous participiez à des réunions et des réseaux clandestins?
En fait, Vytautas Landsbergis, qui était devenu le père de notre indépendance, était mon collègue au conservatoire et il avait les conversations qui n'étaient pas très, très
politiquement
correctes. Voilà, je cherchais le mot.
Mais c'est ça.
Et c'est les intellectuels, les musiciens, les poètes qui ont fait la révolution chantante. On appelle ça chantant.
En Lituanie.
Tout à fait. Et donc, j'étais naturellement très proche de ces gens que j'ai respectés. Et le moment venu, il fallait agir d'une manière ou autre, il fallait participer, on participait dans les réunions, on réfléchissait ensemble et on cherchait l'issue pour se libérer.
Alors, c'était sous Gorbatchev, et d'ailleurs, vous en parlez, hein. Vous dites, contrairement à l'image qu'on peut avoir de lui en Occident, en France en particulier, c'était pas forcément un tendre non plus, Gorbatchev.
Oui, il a desserré les vis, mais quand il fallait les serrer, il serrait très fort.
Et il fallait envoyer les chars.
On avait les chars, on avait les morts de Gorbatchev.
Alors, on va rappeler cet épisode extraordinaire, cette chaîne humaine de 687 km à travers les pays baltes pour demander l'indépendance. Donc, finalement, en 1991, vous la Lituanie va retrouver son indépendance, non sans difficulté, mais peu avant, vous allez enfin retrouver votre passeport, un visa et pouvoir partir à l'étranger, à l'ouest, de l'autre côté du rideau de fer, c'est le titre des chapitres de votre livre, et c'est le moment où vous découvrez la France en venant à Paris pour étudier la musique française. Et là, il faut que vous nous racontiez le choc que ça a été pour vous à tout point de vue, culturel, social, économique, gastronomique aussi.
Oui, c'était un bouffet d'air frais. Je ne peux pas dire que j'étais absolument quelqu'un qui ne savait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai retrouvé ce que j'ai cherché dans la littérature française. Même Dumas, les mousquetaires, me parlaient dans les bâtiments de Louvre, n'est-ce pas? Mais je suis venue à Paris pour un seul but, d'approfondir mes connaissances dans la musique française. Parce que le conservatoire de Moscou, qui était et qui est toujours l'école de musique extrêmement réputée et universelle, n'essayait pas vraiment la musique française. C'était d'abord très peu joué. Et en plus, quand c'était joué avec le panache à la Rachmaninov. Donc, moi, j'ai cherché la clé de l'interprétation de Debussy ou de Ravel ou d'autres.
Alors, je parlais de choc économique. Les gens doivent se dire, pourquoi dit-il ça? Mais vous découvrez en arrivant en France. Quand on arrive en France, l'appartement, il faut se le chercher soi-même. Il faut se payer son loyer. C'est pas comme en URSS.
C'est ça. Et à la fin de première semaine, je vois que j'ai les clopinettes d'argent dans ma main. Et je dis, non, mais comment je vais vivre trois semaines?
Comment je me loge? Comment je mange?
Mais c'est le choc de capitalisme.
Oui. Alors, vous allez visiter Notre-Dame, qui vous paraît toute petite, à côté des grandes cathédrales russes. Puis vous découvrez les terrasses, l'odeur des boulangeries, ça vous frappe,
oui,
hein, vous décrivez ça. Très sensuel, quoi. Les sens
mais
sont aussi.
Plusieurs odeurs, mais vous allez rire, mais même odeur de métro, de train qui passe sous la terre, j'ai gardé dans la tête.
Alors, il y a des rencontres extraordinaires, celle d'Olivier Messiaen et de son épouse Yvonne Loriot, grande pédagogue.
Hein.
Donc vous allez rentrer au CNSM, vous passez par l'école normale de Paris Alfred Cortot, vous avez participé à une émission avec Michel Cotta, je ne sais pas si on se souvient qui était Michel Cotta à l'époque, mais c'était une grande journaliste.
Oui.
Et vous allez dire en direct, en Lituanie, nous sommes occupés par les chars russes.
Oui.
Ce qui aussi vous va valoir un peu d'ennui tout de
tout
même.
Tout à fait. Quand même, je suis arrivée et j'étais en France par la filière soviétique, puisque la Lituanie était soviétique, j'avais le passeport soviétique. Et sur le plateau de la télévision, j'ai dit que c'est mes occupants. Alors, j'ai mérité les applaudissements de toute la communauté lituanienne qui m'a tout de suite félicité, porté sur les bras. Mais le lendemain,
une
attachée culturelle soviétique m'a demandé de boire un café avec elle. Elle dit, mais
pourquoi
j'ai vu ce que tu as fait hier. Hein. Et alors, j'étais devenue toute blême et je ne savais pas ce que je vais devenir.
Alors, vous revenez en Lituanie après un an de vie libre, comme vous l'expliquez dans votre livre. Et vous y préparez le concours de musique française. Et de retour à Paris, vous remportez le premier prix en jouant Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Ça doit être encore un épisode très important pour la suite de votre carrière, bien sûr.
C'était en quelque sorte ma récompense pour mon année à Paris. Et cette année m'a aidé d'entrer dans ce monde que je ne connaissais pas assez.
un prix qui va vous faire connaître, vous permettre de donner vos premiers concerts en France. Vous êtes repéré au festival de La Baule par Nikita Magaloff, ce n'est pas n'importe qui non plus. Vous allez enregistrer votre premier CD, et puis c'est aussi à l'époque où ce cercle de fans, qu'on appelle aujourd'hui les musaphiles, va commencer à se constituer. Très tôt, vous avez un fan club en France, extraordinaire ça.
Oui, oui. Une de mes proches copines, Claudine, a dit « Attends, mais tu as beaucoup de fans, on va constituer le club et on va te suivre pour tes concerts. » Et ça m'est arrivé d'avoir le groupe de 50 personnes qui m'ont suivi à Prague, par exemple. Et je reçois toujours le même nombre des roses ou des fleurs par rapport à Musaphile présent. Donc 50 roses dans les bras.
Bon, il y a beaucoup de rencontres à Paris avec des artistes, des religieux. Je renvoie les gens au livre. Il faut lire aussi tous ces épisodes, toutes ces rencontres extraordinaires. Et puis il y a une nouvelle expérience, un nouvel épisode important dans votre vie. Vous allez intégrer une résidence d'artiste située à l'abbaye de Lapré, c'est une abbaye cistercienne dans l'Indre. Et vous présentez un projet d'enregistrement des années de pèlerinage de Liszt. On en revient toujours à ce bon vieux Liszt, et c'est avec ce CD dont votre candidature est retenue. Et vous allez beaucoup vous y plaire dans ce lieu, vous allez y vivre, y rester 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie à l'après, là, très près de la nature, des animaux et au milieu d'une petite communauté d'artistes?
C'était pas le monastère. Ça appartenait à une association des Petits Frères des Pauvres. Et Armand Marquiset, qui faisait partie des Petits Frères des Pauvres, a créé une association qui s'appelait Pour que l'esprit vive. Et c'est un joli nom qui est donné pour l'association d'aide au soutien aux artistes. Et on était en résidence de temps en temps 5, de temps en en 8, et j'ai passé 3 ans dans cette abbaye retirée du monde à 10 km de première ville qui était Issoudun, sans voiture. Donc j'ai resté en totale immersion là-dedans, en travaillant mon piano, en s'occupant de mes abeilles, de mon potager qui était absolument splendide. On avait les produits de monastère, on appelait ça, qu'on distribuait partout, parce que sur un pied de tomate j'avais 10 kilos de tomates et j'avais 10 pieds, donc vous multipliez. Et c'était une expérience absolument inouïe, spirituelle, professionnelle et humaine.
Intellectuelle aussi, parce que vous allez beaucoup évidemment converser avec les autres artistes qui sont présents. Oui. Il y a des photographes, il y a des sculpteurs, il y a d'autres compositeurs. Nicolas Bacry a
tout
été
à
par
fait.
Exemple.
Et Thierry Lancinot.
Dominique de Villancourt.
Oui.
Son épouse Guillemette, qui est sculptrice.
Oui, oui.
Voilà, donc cette vraie communauté d'artistes, oui, ont cultivé.
Et c'était l'échange aussi. Et ce qui était important, c'était l'ouverture vers la musique contemporaine. Parce qu'il avait les artistes qui écrivaient sur place, Pierre Tillois par exemple, et ont joué leur musique lors de notre festival des rencontres.
Voilà, vous vivez au milieu de la nature et au milieu des animaux. Alors il y a quelques épisodes extraordinaires. Un jour, vous rentrez dans la cuisine, elle est dans la pénombre, vous voyez deux yeux qui vous fixent et c'est un hibou grand-duc qui était passé par la cheminée.
Oui,
vous avez eu très peur apparemment.
Oui, et j'étais absente pendant 5 jours de mes concerts et j'ai vu que ce grand-duc a mangé tous les papillons secs, tous les fleurs, et il fallait le faire sortir.
Eh oui, c'est ça aussi, la vie à la campagne. On apprend des choses comme ça, on découvre des choses comme ça, mais c'est aussi un des très bons côtés. Tout, oui, près de l'après, à moins de 40 km, se trouve le magnifique domaine de Georges Sand à Nohant, où est organisé le Nohant Festival Chopin, auquel vous avez participé plusieurs fois, Mozart. L'édition 2021 commence justement ce 5 juin, elle va se poursuivre jusqu'au 15 juillet. Et oui, Chopin a passé 7 étés à Nohant auprès de Georges Sand, il y a composé une grande partie de son œuvre. On va donc vous écouter jouer une de ses pièces les plus célèbres. Je sais qu'elle est chère à votre cœur. La sonate numéro 2 et sa non moins célèbre marche funèbre, dont voici un extrait. Thank you. la sonate numéro 2, la marche funèbre de Frédéric Chopin sous les doigts de Musa Rubaskité, encore un compositeur très important pour vous, comme pour la plupart des pianistes d'ailleurs. Alors après votre carrière après un essor vraiment international, vous avez joué un peu partout dans le monde, sur tous les continents, et dans votre livre vous racontez de très nombreux souvenirs de voyages, de concerts, des anecdotes parfois rocambolesques. Est-ce qu'il y a un souvenir ou une rencontre, un pays qui vous ont marqué particulièrement ?
J'aime beaucoup jouer en Amérique du Sud. Ce sont les autres Européens, je dirais. Il y a évidemment la population d'Autochtones, mais il y a aussi ces Italiens, ces Espagnols, ces Allemands qui sont venus là-bas et qui sont installés et qui ont créé leur petite Europe à eux. Et ce sont les gens qui sont très accueillants pour tout ce qui est l'Europe et je me sens très chez moi. J'étais dizaines de fois à l'Opéra de Santiago du Chili, en Argentine, en Colombie et ça marque, c'est les rencontres. Je peux parler de la musique, mais ce qui me marque énormément, c'est les rencontres avec les gens et j'ai énormément d'amis en Amérique du Sud.
Il y en a beaucoup dans ce livre, donc des concerts en Amérique du Sud, des tournées. Vous avez joué aux États-Unis, un peu partout en Europe, bien sûr. Au Japon, important aussi, le Japon pour vous, je crois. En Afrique du Sud également, vous racontez un voyage en Afrique du Sud. Alors tout de même, nous n'en avons pas parlé encore, mais il y a une autre rencontre déterminante dans votre vie, c'est celle d'Alain, votre second mari, qui est suisse. Et je l'avais annoncé, on retourne en Suisse et vous l'avez rencontré en Suisse où vous donniez un concert. Alors c'est très romantique votre rencontre et votre relation, enfin je trouve.
Mais c'est romantique, la rencontre et notre vie est extrêmement romantique et on continue de vivre de cette manière. On vit dans trois lieux, Vilnius, Paris, Genève. Et c'est bien comme ça, on est en permanente connexion tous les deux et j'ai rencontré vraiment, comme les Américains disent, soulmate, deuxième âme, deuxième partie de l'âme.
On dit l'âme sœur,
oui,
en France.
Oui, c'est ça, l'âme sœur. Il y a même la légende où le Hermès et Aphrodite avaient un fils qui était Hermaphrodite et que Zeus a coupé en deux et depuis toujours on cherche la deuxième partie. Moi je l'ai trouvée, pas tout de suite, beaucoup plus tard et ça fait 15 ans déjà que je vis ma vie rose.
Et alors c'est tellement romantique. Alain vous demande en mariage, si j'ai bien lu, au Machu Picchu. Il vous fait sa demande en mariage en haut du Machu Picchu.
Tout à fait.
C'est pas commun, il n'y a pas beaucoup de femmes, je pense, qui peuvent dire ça, hein, franchement. Donc vous vivez désormais une partie de l'année à Genève, et puisqu'on parle de cette rencontre si importante pour vous, de la Suisse et de Genève, c'est le moment de vous écouter de nouveau jouer du Liszt, les années de pèlerinage, la Suisse bien sûr, et dans la Suisse, des années de pèlerinage, il y a quoi ? Il y a les cloches de Genève. Les magnifiques années de pèlerinage, la Suisse et ses cloches de Genève, encore et toujours Franz Liszt, Musa Rubaskité. Au point où vous en êtes de votre vie et de votre carrière, qu'est-ce qui importe le plus pour vous ? Vous terminez votre livre là-dessus. La Lituanie, bien sûr, ça reste important. L'avenir de la Lituanie.
Sans doute. Je considère mon métier comme métier de passeur. Et ce métier me permet de voyager et passer une nouvelle. Ça peut être la nouvelle pour la Lituanie ou bien ça peut être un message venu des autres compositeurs des autres pays. Et ça, c'est quelque chose de plus important pour moi, être passeur ou passeuse des belles choses.
Transmettre, enseigner aussi, parce que vous enseignez toujours, je crois, au conservatoire à Vilnius.
J'enseigne moins en moins, puisque j'ai beaucoup de travail personnel que je vais accomplir, les disques, les concerts, le répertoire. Mais j'enseigne, j'ai surtout beaucoup de satisfaction de travailler pour la fondation de Rostropovitch, que j'ai connu Mstislav Rostropovitch aussi. Et il a créé une fondation en Lituanie pour les enfants surdoués. Et je travaille avec eux, je leur donne un coup de main dans leur carrière et j'essaie de faire tout ce que j'ai pas pu avoir pour leur faciliter un petit peu la vie.
Et puis vous avez fondé et vous dirigez le festival de piano à Vilnius. Ça aussi c'est important ça pour vous.
Oui,
il y aura une édition cette année. Hein.
C'est ça.
C'est
on
tous
est...
les deux ans.
On est passé entre les gouttes dans les années horribilis et c'est cette année que j'espère avoir le beau festival. Et d'ailleurs la Fondation Rostropovitch est toujours présente dans ce festival. C'est le festival de piano de 2 semaines avec les orchestres, avec les pianistes. Et ce sera consacré cette année à Saint-Saëns comme fil rouge.
Voilà, puis ce qui est important évidemment dans votre vie, mais ça, beaucoup de gens, je veux dire, c'est l'amour, on vient d'en parler, la spiritualité.
En travaillant dans mon métier, on est en permanence en état de méditation à travers les œuvres. Et les chefs d'œuvre, comme par hasard, sont toujours les porteurs des messages universels, des spirituels, etc. Donc je suis là-dedans en travaillant mon piano. J'ai besoin de cet état de méditation et spiritualité dans toutes ces manifestations est importante pour moi.
Alors, je parlais de l'amitié. Et l'amitié, c'est aussi le festival Ton Voisin à Albi, celui fondé et dirigé par Denis Pascal, où vous vous êtes déjà produite et vous vous produisez encore ce samedi 5 juin. Je l'annonçais en début d'émission, à 18h au Théâtre des Lys pour le concert de clôture. Vous allez y jouer un programme Tsimanowski, Godowski, Scriabine, largement inspiré d'un CD que vous avez fait paraître récemment sous le label Lydia. Karol Tsimanowski et Léopold Godowski, deux compositeurs peu connus du grand public, mais qui comptent beaucoup pour vous. Alors surtout Godowski, parce que il était lituanien.
Il était Litvak.
Il était Litvak.
Tout à fait. Il était né à Vilnius et puis faire sa carrière par la suite à Vienne et surtout aux États-Unis. C'était un...
immense virtuose de l'époque.
Immense virtuose dont tous les pianistes connaissent son existence. Ses études transformées de Chopin, d'une difficulté seulement accessible à lui-même. Mais quelqu'un qui n'était pas considéré comme un compositeur. Il n'y a même pas son nom dans les catalogues de compositeurs. Il était considéré juste comme un grand virtuose pianiste. Mais c'était un personnage très bien entouré de soutien célèbre. Et vous allez voir
dans le CD, c'est extraordinaire parce qu'il y a des photos de Godowski, très belles d'ailleurs, avec les grands de l'époque, avec Chaplin, avec Albert Einstein.
Avec Schoenberg.
Et avec Schoenberg et avec beaucoup d'autres.
Oui, il a soutenu Yasha Heifetz quand il est venu à New York. Donc c'était un personnage incroyable, très généreux, très, très agréable. Mais la sonate que j'ai enregistrée, c'est une... ces sortes de journal intime, un peu comme pour Liszt, les années de pèlerinage. Ce n'est pas une sorte de flamboyante virtuosité, mais c'est la profondeur, c'est les sentiments purs et sincères. Et c'est dédicacé à sa femme bien-aimée. C'est un monument de 5 mouvements, de 50 minutes de jeu.
Nous allons vous écouter une dernière fois dans cette émission dans l'Allegretto Gracioso et Dolce de la sonate en mi mineur de Godowski que vous jouez ce samedi à Albi. Thank you. l'Allegretto Gracioso et Dolce de la sonate en mi mineur de Léopold Godowski, une pièce que vous allez donc jouer ce samedi 5 juin lors du concert que vous donnez au Théâtre des Lys à Albi à 18h en clôture du festival Ton Voisin. Il va y avoir aussi des pièces de Szymanowski et Scriabine au programme, ainsi que Souvenir de Florence, le secteur à cordes de Tchaïkovski. À ceux de nos auditeurs qui voudraient se renseigner et réserver des places à ce concert, je conseille de se connecter au site www.ton-voisin.com. Nous devons conclure cette émission. Mouza Roubaskité, il me reste à vous dire encore une fois combien j'étais ravi et honoré de vous recevoir à Mélomanie pour évoquer avec vous votre vie et votre carrière que vous racontez dans ce livre passionnant et souvent très émouvant, je dois dire, Né sous un piano, publié aux éditions Ovadia. Je rappelle aussi votre CD consacré à la musique pour piano de Szymanowski et Godowski, paru sous le label Ligia. La semaine prochaine, je recevrai Catherine Kaufmann-Saint-Martin, fondatrice et directrice artistique de la saison Musique en dialogue au Carmélite, dans les premiers concerts autour des Fables de La Fontaine, avec la violoniste Clara Serna, le pianiste Thierry Huillet et le récitant Daniel Alm, ont lieu dimanche 13 juin à 11h et 16h à Toulouse, à la chapelle des Carmélites bien sûr. Renseignements et réservations sur le site www.musiqueendialogue.org. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité à cette émission et très bonne semaine musicale à tous.